BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, il est 8h30. Le deuxième tour des élections législatives aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats qualifiés au deuxième tour pour la 8e viennent répondre à nos questions. Le deuxième arrivé premier, on aura le temps d'en reparler. Benjamin Lucas est avec nous, candidat de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Benjamin Lucas, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes vos auditrices, à tous vos auditeurs.
Alors, on dit NUPES, NUPES,
On dit comme on veut, quand on dit NUP, ça veut dire retraite à 60 ans, ça veut dire hausse du SMIC.
Voilà, on n'a pas commencé.
On le dit comme on veut, tant qu'à la fin, on ne se trompe pas de bulletin de vote.
D'accord, vous avez donc 31 ans, vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France, vous avez été porte-parole de Yannick Jadot lors de la présidentielle 2022. Alors on va revenir sur les résultats au niveau national. La coalition de la majorité Ensemble l'emporte avec 25,75%, vous êtes juste derrière. 25,2.
Alors ça dépend du mode de calcul, si on veut être honnête dans cette affaire. Ça dépend du mode de calcul. Le ministère de l'Intérieur, ça a été révélé par le journal Le Monde. C'est pas la NUP ou la NUPES qui le dit, c'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde, qui est un journal sérieux, indique que nous sommes en tête du premier tour de l'élection législative.
Mais vous contestez les chiffres déjà.
Non, mais c'est le journal Le Monde qui les conteste pas. C'est pas moi. Mais j'allais dire, peu importe, ce qui compte, c'est ce dimanche. Est-ce que les électrices et les électeurs décident de nous donner une majorité ou pas? C'est ce résultat qui restera dans l'histoire.
Bon, en gros, vous êtes au coude à coude.
Voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Rassemblement national arrive troisième, les Républicains quatrième,
mais largement en tête dans cette circonscription. Je l'interprète de la façon suivante, c'est une claque cinglante pour le président de la République. Jamais dans notre histoire, hors période de cohabitation, un président de la République n'avait eu un si faible score au premier tour de l'élection législative qui suit l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui un rejet d'Emmanuel Macron très très fort dans le pays. Les Françaises et les Français ne veulent pas qu'il ait les pleins pouvoirs, ne veulent pas qu'il puisse mener ses réformes injustes et brutales, notamment la retraite à 65 ans et j'en passe. Donc c'est ça le signal du premier tour et maintenant il convient de transformer l'essai, si je puis dire pour nous, au second tour en obtenant une majorité.
Vous croyez que vous aurez la majorité absolue ?
Je crois que tout dépend de la participation. Si... toutes celles et tous ceux qui nous disent « nous sommes d'accord avec vous, nous voulons que le projet de la gauche et des écologistes s'applique », vont voter, alors nous gagnons. C'est la participation, c'est l'abstention qui détermine le résultat. Vous savez, si on a 5 points de plus de participation ou 10 points de plus de participation dimanche, tout est possible, absolument tout, dans le bon comme dans le mauvais sens pour nous.
Donc
j'appelle à se mobiliser.
Dans la 8e, vous arrivez en tête avec 33,37% des voix. Edwige Hervieux arrive deuxième avec 24,35% des voix. Cyril Nôtre du Rassemblement National 22,33%. Michel Vialet 7,85%. Et Anne Sicard de Reconquête 3,50%. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats?
J'étais très ému et très, très fier, moi, vous l'avez dit. Je suis arrivé sur ce territoire, je savais que j'avais mes preuves à faire. Et moi, je suis un démocrate, donc c'est les électeurs qui décident, c'est le peuple qui tranche dans une démocratie et qui dit qui est légitime ou qui ne l'est pas. Et arriver aussi largement en tête de l'élection, cela m'a rendu très fier, mais surtout cela m'honore et ça m'oblige. Ça me donne beaucoup de devoirs vis-à-vis des électrices et des électeurs pour ne pas les décevoir. Et ça m'a donné la responsabilité de rassembler au second tour et de porter beaucoup de colère. Parce que vous l'avez dit, il y a un score... du Front National, du Rassemblement National de 22%, ça traduit une chose, c'est qu'il y a beaucoup de colère aujourd'hui sur notre territoire, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'en peuvent plus, qui en ont ras-le-bol, qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs, et donc j'ai la responsabilité de leur proposer finalement un espoir et une alternative.
Et sur la commune de Mantes-la-Jolie, vous êtes arrivé premier avec 40%?
Oui, là aussi, c'est un grand motif de fierté, parce que ma concurrente, mon adversaire, appelons-la comme cela, a voulu faire de cette élection une élection locale, quasiment une élection municipale. Elle a mis le maire de Mantes-la-Jolie partout en avant, etc. Et donc, elle a voulu finalement en faire une réplique de l'élection municipale partielle. Or, les électrices et les électeurs m'ont fait confiance aussi, je crois, parce que je suis allé, moi, beaucoup à leur rencontre. Vos confrères l'ont dit, on m'a vu partout, j'ai rencontré beaucoup, j'ai échangé avec beaucoup de Mantaises et de Mantais, et je crois que cela s'est vu dans le résultat. Il y a une confiance, un lien de confiance qui s'est construit, mais aussi à Limay, hein, à Limay 43%, je fais mieux que Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et puis j'ai le soutien du maire Jamel Nedjar qui est très impliqué dans ma campagne. À Mantes-la-Ville, nous faisons d'excellents scores. Enfin bref, pour arriver à 33%, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on fait d'excellents scores.
Alors qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on dit mais vous êtes un parachuté et un professionnel de la politique?
Alors, professionnel de la politique, je remercie de donner un argument, je remercie Madame Hervieux de donner un argument pour voter pour moi, parce que les électeurs sont un peu des sélectionneurs là. Il sélectionne celui ou celle qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes sélectionneur au foot, pour aller marquer des buts, vous prenez le plus professionnel, le plus expérimenté, celui qui saura aller jouer tous les ballons et aller gagner le match. Bon, bah moi, si on estime que je suis professionnel, c'est-à-dire que je suis capable, par mon expérience, par les combats que j'ai menés, par certaines qualités personnelles, d'aller à l'Assemblée nationale porter avec professionnalisme les combats qui nous tiennent à cœur sur ce territoire, contre les déserts médicaux, pour les services publics, pour le pouvoir d'achat. Le litre d'essence est à plus de 2,20 € encore ce matin, et nous proposons de bloquer les prix à la baisse. Si on estime que je suis assez professionnel pour mener ces combats, malgré mon jeune âge, vous l'avez rappelé, bah alors je considère que c'est plutôt un motif de fierté. Pour le reste, moi, je laisse chacun juge. C'est pour ça que je suis allé rencontrer le maximum de personnes. Vous savez, pour se faire un avis sur moi, il faut me rencontrer, il faut m'écouter, il faut qu'on se parle. Mais moi, j'ai pas envie de parler de moi. Le sujet, c'est pas... et puis sur le parachutage, moi, je suis pas candidat pour être président de l'Office du tourisme. Je suis candidat pour être député. Maintenant, je connais ce territoire, mais je connais les aspirations des gens. Moi, j'ai pas envie de parler de moi, de mon profil. C'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est parler de ce dont les gens ont besoin. Et ce dont les gens ont besoin, c'est d'un député qui tiendra tête à Emmanuel Macron. C'est d'un député qui sera pas un député aux ordres d'Emmanuel Macron. C'est d'un député qui saura dire non à la retraite à 65 ans, non à la désertification médicale, oui à l'augmentation des salaires, oui au blocage des prix de l'essence, de l'énergie et des produits alimentaires de première nécessité. C'est ça le sujet de cette élection, c'est pas autre chose. Moi, je ne dirais pas de mal de mon adversaire sur ses qualités personnelles. Elle en a. C'est une élue locale impliquée dans la vie de la cité. C'est très bien. Voilà, nous avons tous les deux des qualités et des défauts. Le sujet, c'est les projets et c'est les convictions.
Vous allez rester conseiller régional des Hauts-de-France si vous êtes élu député ?
Écoutez, je serai un député à plein temps. Pour ce qui est, moi, je me suis pas projeté dans lundi. Je fais campagne à 100%.
C'est dans deux jours.
C'est dans deux jours.
Peut-être que vous y avez pensé quand même.
Mais vous savez, depuis des années, je suis partisan du mandat unique des parlementaires. J'ai pas de raison d'en changer. Simplement, je dois, parce que je suis quelqu'un d'honnête et qui travaille toujours dans le collectif, je dois à mes collègues au conseil régional d'en parler d'abord avec eux avant d'annoncer quelque chose dans les semaines à venir.
Très bien, le taux d'abstention, niveau ouais. National, 52,49%, dans la 8e, 58,75%. C'est quoi ? C'est un désaveu ? C'est les gens, il a fait beau, la politique, on n'y croit plus ?
Bah, c'est la preuve que justement, plutôt que de s'invectiver entre candidats, plutôt que d'entretenir des polémiques stériles ou de s'injurier, je vais y revenir après si vous me le permettez, mais il y a quand même la profession de foi de mon adversaire qui insulte un tiers des électeurs qui ont voté pour moi en les qualifiant d'extrémistes, de dictateurs en puissance, comme si l'extrémisme aujourd'hui c'était pas le prix de l'essence, les injustices, etc. Bon, mais tout ça contribue à dégoûter les gens de la politique. Donc nous devons d'abord nous remettre en question. Est-ce que nous sommes capables d'intéresser les gens ? C'est pour ça que moi j'ai proposé un débat. J'ai proposé à mon adversaire qu'on puisse débattre chez vous par exemple de façon transparente. Elle l'a refusé, mais pour qu'on compare les projets. Sereinement, tranquillement, et que les gens puissent s'intéresser à cette élection. Moi, l'objet du débat pour moi, vous savez, je pense que les débats...
Mais son argument, c'est... De toute façon, on est d'accord sur rien. Donc, ça sert à quoi de parler pendant 20 ou 30 minutes ?
Si, je pense que, par exemple, il y a des sujets sur lesquels on pourrait être d'accord. Par exemple, sur l'idée que, sur des valeurs républicaines, nous pourrions être d'accord. Voilà, il y a des engagements, sans doute, qui pourraient nous être communs. Mais tout ça nécessite d'une discussion. C'est le principe d'un débat. C'est d'exposer des désaccords et que les gens, ensuite, sereinement, puissent décider. Et à minima, je vais vous dire, moi, je pense que les débats ne changent rien au résultat d'une élection. Mais ils permettent d'intéresser, ils permettent de captiver l'attention et donc de faire aussi de la pédagogie et d'expliquer. Mais c'est ce que j'ai fait, toute cette campagne, je l'ai passé aussi à expliquer ce que pouvait être une cohabitation, à expliquer pourquoi j'étais candidat, à quoi servait un député. Et là, je le dis, et j'aurais besoin de l'expliquer, y compris à Madame Hervieux, qui semble confondre l'élection locale et l'élection nationale. Un député, il n'est pas maire. Un député, il n'est pas président de département. Un député, il est là pour faire la loi et pour défendre à l'Assemblée nationale son territoire et ses électeurs, et les députés de toute la nation au service de l'intérêt général. Un député, c'est pas un super élu local. Il faut que chacun soit dans son rôle et qu'on respecte, y compris les élus locaux. Et moi, j'ai trop de respect pour les maires, qui sont une fonction essentielle dans notre République, pour considérer que je dois faire leur travail à leur place. C'est pas le sujet. Donc, vous voyez, il y a besoin de pédagogie, y compris pour les autres candidats aux élections législatives. Mais donc voilà, sur l'abstention, bah, moi, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, votez pour qui vous voulez. Là, on a eu quelques semaines de campagne. C'est à vous de déterminer si vous êtes plus proche de mes propositions ou de celles de Madame Hervieux, très sereinement, très tranquillement. Mais votez. Il faut que celui ou celle qui sera élu dimanche ait la plus forte légitimité possible pour vous représenter. Et que ce soit moi ou mon adversaire, il faut qu'à l'Assemblée nationale, il ait une force pour parler en votre nom.
Et alors, qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on vous dit, selon les projections, vous n'avez pas la majorité absolue ? Vous n'aurez pas la majorité absolue. Sur les projections des sondeurs. On va partir de cette thèse-là. Hein. Après, vous allez me dire que c'est ce que vous en pensez.
Ouais.
Vous n'êtes pas dans la majorité. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour le territoire? Ça, c'est un argument qui revient souvent.
Alors, les mêmes sondeurs, puisque je pourrais faire la réponse classique du politicien et vous dire les sondeurs se trompent toujours. Et c'est vrai qu'en 1997, quand la gauche a gagné les législatives dans un contexte un peu semblable, les projections donnaient une majorité à Juppé et pas à Jospin. Et c'est Jospin qui a gagné. Bon, donc, je pourrais vous dire ça. Mais je vais partir de votre hypothèse. Imaginons que les sondeurs ont raison. Ils disent aussi qu'Emmanuel Macron peut ne pas avoir de majorité absolue. Ça se jouerait à quelques sièges. Eh bien, moi, je dis aux électrices et aux électeurs, ne lui laissez pas les pleins pouvoirs. Moi, à l'Assemblée nationale, je m'opposerai à la retraite à 65 ans. Moi, à l'Assemblée nationale, je m'opposerai au mépris et à la brutalité avec laquelle Emmanuel Macron traite les Français. Il a dit que les plus pauvres n'étaient rien, des gens qui ne sont rien. Il a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot. Nous savons que c'est pas vrai. Donc, vous aurez un député qui saura tenir tête à Emmanuel Macron, qui saura défendre votre voix, vos intérêts et l'intérêt général.
Madame Hervieux, qui était notre invitée à 7h30, nous expliquait que votre programme, c'était un gouffre. C'était encore plus de déficit.
C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a creusé la dette dans ce pays. Ce n'est pas vrai, il y a des économistes très sérieux qui ont chiffré notre programme. Mais vous savez, c'est une vieille rengaine. À chaque fois dans l'histoire, c'était vrai avec le Front Populaire en 1936, c'était vrai avec l'arrivée de la gauche en 1981, où on affolait, on inquiétait avec les chars russes, etc. À chaque fois, quand on n'a plus d'arguments sur le fond, parce que quand on sent que les gens ne sont plus d'accord avec nous, je crois, il y a un sondage hier, 8 Français sur 10 sont contre la retraite à 65 ans. 7 ou 8 Français sur 10 sont d'accord avec notre proposition de blocage du prix, de blocage à la baisse du prix de l'essence parce qu'on n'en peut plus aujourd'hui. Donc quand on n'a plus d'arguments face à cela, on agite les peurs. Non, je veux rassurer tout le monde, notre programme il est financé, nous allons simplement partager la richesse, comme le font d'autres pays, y compris pas forcément des grandes démocraties. Vous savez, Roosevelt aux États-Unis dans les années 30, c'était pas un mélanchoniste insoumis, hein, Roosevelt. Il a fait le New Deal, il a partagé la richesse, il a fait de l'investissement. Et quand on investit dans les services publics, dans la transition écologique, quand on investit dans les gens, quand on leur rend du pouvoir d'achat, c'est vertueux pour l'économie, ça fait aussi rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État, c'est un cercle vertueux. Ça, il suffit d'avoir fait un peu d'économie au lycée pour le savoir. Je sais pas si c'est du professionnalisme, en tout cas c'est du bon sens.
Que pensez-vous des propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police?
Je pense que Jean-Luc Mélenchon soulève un vrai problème. Il y a aujourd'hui un manque de confiance de beaucoup de nos concitoyens envers la police républicaine. Et moi, je suis un arrière-petit-fils de gendarme. Je suis un républicain. Je ne peux pas me satisfaire d'une situation dans laquelle il y a des millions de nos concitoyens qui n'ont pas confiance dans la police de notre pays. On a besoin, il n'y a pas de république sans gardien de la paix. Et donc, il faut renouer les conditions de la confiance. Alors, on peut faire comme Madame Hervieux, emprunter à l'extrême droite son vocabulaire et dire on peut rien remettre en cause, il faut parler de rien, il y a des sujets tabous. Pour moi, il n'y a aucun sujet tabou nulle part. Moi, si je suis élu, je rencontrerai les organisations syndicales de policiers, tous les gardiens de la paix du territoire qu'ils souhaiteront, et les habitantes et les habitants pour trouver des solutions. Ces solutions, il y en a plusieurs. D'abord, il faut en finir avec les contrôles au faciès, avec les contrôles d'identité en fonction de l'origine des individus. Donc, il faut mettre en place, c'est tout simple, un petit récépissé, une attestation de contrôle d'identité. Pour que, quand quelqu'un s'estime victime de contrôle discriminatoire, il puisse en faire la preuve et le démontrer. C'est très simple, c'est très rapide, et ça se fait dans de bonnes conditions. Ensuite, il faut garantir que les enquêtes sur d'éventuelles violences policières se fassent de façon transparente et indépendante, y compris pour quand elles aboutissent sur le fait que des policiers seraient innocents, elles ne soient pas contestées. Donc il faut que l'IGPN, la police des polices, pour parler vulgairement, soit indépendante du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas un seul corps de métier où c'est le métier en question qui évalue quand il y a une faute qui est commise. Voilà, ce sont des vrais sujets. On ne peut pas les traiter par des slogans ou des anathèmes, on doit les traiter avec sérieux. Et moi, ma méthode, ce sera de mettre tout le monde autour de la table et de trouver des solutions.
Mais les propos de Jean-Luc Mélenchon?
Mais Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez, il a son vocabulaire, il a son franc-parler, c'est aussi pour ça qu'il est aussi populaire qu'aujourd'hui. Je crois qu'il soulève une vraie question. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui, et moi la responsabilité, pour moi quand il dit la police avec un grand L et un grand P, il met en cause ceux qui sont au pouvoir. Il y a un responsable, c'est le ministre de l'Intérieur. Il y a des gens qui ont défini une doctrine de maintien de l'ordre qui a conduit, notamment pendant les Gilets jaunes, à une répression brutale, à bien des égards, sanglante. Il y a des gens qui ont perdu un œil, il y a des gens qui ont été mutilés, il y a des gens qui ont été matraqués, qui ont été gazés au visage de façon injuste. Au moment des gilets jaunes notamment ou d'un certain nombre de mouvements sociaux, il y a aujourd'hui un problème à la tête de l'État, de doctrine de maintien de l'ordre, de moyens aussi mis à la disposition des policiers. Pourquoi il y a aussi un certain nombre de problèmes? C'est parce que nos forces de l'ordre sont épuisées. parce qu'aujourd'hui, on les oblige à réprimer un certain nombre de mouvements sociaux, de manifestations, à une politique du chiffre, et en sous-effectif avec des conditions de travail déplorables. C'est ça aussi le sujet. Donc, il faut changer de ministre de l'Intérieur. Donc, pour virer Monsieur Darmanin du ministère de l'Intérieur, pour virer Monsieur Lallemand de la préfecture de police de Paris, Monsieur Lallemand qui est un fou furieux aujourd'hui, eh bien, il faut changer de majorité et donc il faut voter contre Emmanuel Macron et faire barrage à Emmanuel Macron dimanche.
Est-ce que vous allez gagner, selon vous, dimanche ?
C'est les électeurs et les électrices qui décident. Moi, vous savez, je parlais du foot tout à l'heure. Tant que c'est pas fini, c'est pas terminé. Il y a plein d'exemples footballistiques, notamment la demi-finale 98 où on est remonté sur les Croates de façon très belle avec Lilian Thuram à l'époque. Mais moi, je respecte les électrices et les électeurs. Je suis très serein. Moi, j'ai fait campagne. Je suis allé voir le plus possible de gens. J'aurais aimé en voir plus. J'en verrai plus si je suis élu ou pas élu, d'ailleurs, parce que je continuerai, quoi qu'il arrive, à faire de la politique, à être engagé. Maintenant, j'ai encore quelques heures pour convaincre, là, jusqu'à ce soir minuit. Je vais tout donner. Je parle, j'écoute, j'échange avec celles et ceux, y compris qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ont fait d'autres choix au premier tour, et beaucoup avec celles et ceux qui se sont abstenus. Et puis après, très sereinement, c'est les électrices et les électeurs qui décident. Et quoi qu'ils décident, ils auront raison, parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui a toujours raison.
Alors, il nous reste 4 minutes.
Ouais.
Sur le pouvoir d'achat, quelles sont vos propositions ?
Blocage des prix à la baisse. Il faut aujourd'hui plus de 2... Hier ou avant-hier, 2,28 €, moi, le plein, le litre pour faire le plein. 2,28 €. Qui peut aujourd'hui mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler, pour aller chercher ses gamins à l'école ou pour accéder au bonheur, aller à la mer? Il fait très chaud en ce moment. Il y a plein de gens qui voudraient aller un peu plus loin, aller en Normandie, aller à la mer et qui peuvent pas le faire parce que ça coûte trop cher. Donc, il faut bloquer à la baisse le prix de l'essence. Il faut aussi, vous savez, tout augmente sauf les salaires. Il faut augmenter le SMIC à 1 500 € net par mois. Il faut augmenter les salaires. Il faut une garantie d'autonomie pour nos personnes âgées. C'est pas normal qu'on laisse aujourd'hui vivre dans la pauvreté, dans la misère, celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie. Il faut un minimum pour les pensions à 1 063 €. Et il faut augmenter les pensions aujourd'hui. On le doit à nos aînés. Il faut aussi accompagner nos jeunes. Pas dire il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Il faut les aider à trouver leur voie, à trouver leur place dans la société. Il faut les accompagner. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour le pouvoir d'achat qui sont indispensables, qui sont d'urgence vitale aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens.
La retraite à 65 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes contre ?
Oui, parce que travailler plus vieux, c'est mourir plus jeune. Toutes les études le montrent. Là, encore une fois, c'est pas la France.
Mais comment on fait pour financer ? Parce que c'est ça que vos adversaires vous
disent. Ah bah, c'est simple. De toute façon, c'est comment on va faire pour financer la retraite à 65 ans, déjà, leur truc. Parce qu'en fait, si on part plus tard en retraite, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail parce qu'on libère pas assez d'emplois. Point 1. Point 2, moi, j'ai une mesure de financement toute simple, un exemple. Hein. Payons les femmes autant que les hommes. Faisons l'égalité salariale. Eh ben, on fera rentrer des cotisations supplémentaires. Si on appliquait l'égalité salariale aujourd'hui, on pourrait largement financer des réformes très vertueuses des retraites. Et dernier point, le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est pas de la NUP, hein, qui est en réalité plus proche du MEDEF que de la CGT, si je devais caricaturer un peu, il dit qu'il n'y a pas aujourd'hui nécessité de réformer les retraites, que le système est financé. Donc, il y a une intention cachée, c'est de financer autre chose avec la réforme des retraites. Moi, j'aimerais savoir quoi. Si c'est encore une suppression de l'ISF ou des cadeaux fiscaux pour les plus riches, ça ne me surprendrait pas parce que c'est ça la marque de fabrique de M. Macron et de Mme Hervieux.
Dans le Mantois, on va revenir à la question. Le projet de maison d'arrêt, pour ou contre ? Qu'est-ce que vous pourrez faire si vous êtes élu ?
Contre à 100%, je me battrai avec les élus. Je suis soutenu par le maire de Magnanville, Michel Lebouc. J'ai rencontré des associatifs, des élus, y compris d'opposition.
Ouais, alors, on va rappeler juste, ouais, pour nos auditeurs qui, ouais, nous écoutent, que ce domaine-là, c'est un domaine régalien de l'État.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, peut construire une maison d'arrêt ou une centrale n'importe où en France.
Bien sûr, mais nous allons nous battre avec les élus, avec les habitantes et les habitants. Moi, je suis opposé à 200% à ce projet. J'interpellerai, si je suis élu parlementaire, mon premier courrier. Ma première interpellation publique sera à l'égard du ministre de la Justice pour exiger le retrait de ce projet, qui est un non-sens pour les habitants, un non-sens pour l'environnement, un non-sens y compris pour la justice. Notre département a déjà beaucoup plus de maisons d'arrêt et de prisons que la moyenne. Le problème, pourquoi on construit des maisons d'arrêt supplémentaires, c'est parce que la justice est trop lente. Donc moi, je suggère à M. Dupond-Moretti d'embaucher des greffiers, d'embaucher des magistrats pour que les affaires soient traitées plus vite et qu'on n'ait pas besoin de maintenir des gens en détention avant leur procès trop longtemps parce que la justice est trop lente et qu'elle est embouteillée.
Donc
c'est ça le sujet.
Vous êtes contre la création d'une maison d'arrêt, que ce soit à Magnanville, à Porcheville, vous êtes contre ça ?
Je suis contre la construction d'une maison d'arrêt sur notre territoire. Je pense qu'il n'y en a non seulement pas besoin, que ce département prend déjà sa part de l'effort national de construction de prisons et d'existence de prisons sur son territoire.
Benjamin Lucas, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour dimanche ? Allez voter.
Votez. Faites-vous un avis. Lisez nos professions de foi. Regardez nos sites internet. Choisissez librement, sereinement. Moi, j'espère que vous voterez pour moi. J'espère que vous m'accorderez votre confiance. Après, j'espère en être digne pendant 5 ans. J'espère vous rendre fier. On me dit professionnel de la politique. Ben, j'espère pouvoir, avec professionnalisme, vous représenter à l'Assemblée nationale, porter vos combats, ce qui nous rassemble, sur les services publics, sur la santé, sur le logement, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi. Mais faites-vous un avis. Si vous êtes plus d'accord avec mon adversaire, eh bien, votez pour elle. Si vous êtes plus d'accord avec moi, eh bien, votez pour moi. Mais votez. La démocratie est un bien précieux, elle est attaquée, on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit M. Poutine, on voit aussi ce qui se passe parfois dans notre pays. Défendons la démocratie, votons et donnons de la force à nos élus pour qu'ils nous représentent.
Benjamin Lucas, merci d'avoir accepté
merci
notre invitation. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure à 13h et à 18h30. Vous la retrouvez en podcast sur notre site bpmlaradio.com, rubrique élections législatives. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élections législatives 2022.